Merci beaucoup à Alain et toute l'équipe qui nous ont conduits dans la première partie de ce culte. Alors voilà, ça arrive. Un sondage a été réalisé en 2022 sur le protestantisme français et l'une des questions portait sur la fréquence de lecture de la Bible. Lisez-vous la Bible tous les jours ou presque, au moins une fois par semaine? Voilà, vous les avez ici. Entre une et trois fois par mois, quelques fois par an, moins souvent, voire jamais, avec les pourcentages en question. Alors, c'est un sondage qui porte sur le protestantisme et qui dépasse, bien sûr, le cadre des évangéliques dont nous faisons partie. Mais ça donne quand même une tendance. Et on peut comparer ce sondage à deux autres qui ont été réalisés en 2010 et en 2017. Ils sont affichés en bas ici, avec des fréquences légèrement posées légèrement différemment, mais quand même, ça donne là aussi une tendance. Et quand on voit l'évolution entre 2010, 2017, 2022, on se dit, qu'est-ce que ce sera en 2030 ? C'est un sondage qui porte sur la lecture de la Bible. Mais si ce sondage avait, parmi toutes les questions, posé la question suivante. Dans votre lecture de la Bible, lisez-vous l'Ancien Testament? Qu'est-ce que ça aurait donné comme résultat? L'Ancien Testament. Une façon simple de vérifier nos habitudes de lecture. Si toutefois vous utilisez une Bible au format papier, qui a au moins 3-4 ans de route, vous regardez la tranche de votre Bible et puis vous regardez là où les pages sont un petit peu plus noircies ou plus usées. Et ça donne quelques repères sur nos habitudes de lecture. Un peu vers le milieu, comme ici, vers le livre des psaumes, on aime bien les psaumes. On aime bien aussi le livre de la Genèse, et on en a parcouru certains passages ce matin. On aime bien aussi le dernier quart de la Bible. Dans le dernier quart, il est question plus particulièrement donc du Nouveau Testament. Et pour le reste, c'est-à-dire essentiellement l'Ancien Testament, on a parfois l'impression que ça sort encore de chez l'imprimeur. Question. Pourquoi devrait-on lire l'Ancien Testament puisque nous sommes sous la Nouvelle Alliance inaugurée par Jésus-Christ il y a quelques 2000 ans? Ne conviendrait-il pas de lire plutôt le Nouveau Testament? D'ailleurs, l'Ancien Testament est ancien. L'Ancien Testament est-il toujours utile et pertinent pour nous aujourd'hui? Et s'il l'était, comment devrions-nous le lire? Est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui et d'emblée, affirmons haut et fort que oui, il est utile et pertinent de lire l'Ancien Testament, de chercher à comprendre l'Ancien Testament. Et mon premier point ce matin, c'est déjà pourquoi? Pourquoi lire l'Ancien Testament? Et je vais apporter une réponse en trois mots-clés, trois raisons. Première raison, ce mot-clé « prolongement ». Hop, prolongement. L'Ancien Testament se prolonge dans le Nouveau Testament et permet de mieux le comprendre. Quand on débute avec la lecture de la Bible, qu'on est par exemple nouveau converti, ou même qu'on reprend la lecture de la Bible après avoir un temps de pause, la plupart du temps, on recommande de commencer avec le Nouveau Testament, c'est peut-être moins compliqué au premier abord, etc. Et ouvrons le Nouveau Testament au premier livre, au premier chapitre, au premier verset, et nous lisons ceci. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Si vous n'avez jamais lu l'Ancien Testament et que vous avez une connaissance un peu maigre de la culture biblique, vous allez penser que Jésus a un papa qui s'appelle David et un grand-père qui s'appelle Abraham. Et puis, vous lisez la généalogie et vous apprenez à la fin que son père s'appelle Joseph. Alors, on n'y comprend plus rien. Et en fait, derrière les noms de David et d'Abraham, il y a tout un poids historique et théologique qui sont transversales à l'ensemble de la Bible. Et c'est grâce à l'Ancien Testament que nous allons découvrir les liens qu'il y a entre Abraham, David, Jésus, les liens entre les promesses que Dieu a faites à Abraham, puis à David, et comment ces promesses trouvent leur accomplissement en Jésus, parce qu'il y a un prolongement de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. En ne lisant que le Nouveau Testament, alors oui, bien sûr, on va comprendre que Jésus est mort pour nos péchés. Et puis, tôt ou tard, on se demandera, mais c'est qui ce Dieu créateur dont on a parlé tout à l'heure dans la première partie de ce culte? Dans quel but a-t-il créé le monde et l'humanité? Est-ce qu'il les a créés tels que nous le voyons aujourd'hui? Ah ben non. Genèse 1 et Genèse 2 montrent que non. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive là où nous en sommes aujourd'hui? Ah ben il y a eu Genèse 3, avec l'entrée du péché dans le monde et toutes les conséquences qui en découlent, tristes conséquences. Et Dieu a-t-il une solution pour rétablir ce monde tel qu'il l'avait créé originellement? Est-ce qu'il a le pouvoir de le faire? Est-ce possible ou bien est-ce perdu d'avance? Et l'Ancien Testament va apporter des éclairages à tout cela. Et c'est dans ce contexte que nous entendrons parler d'Abraham et de ses descendants nombreux, dont David. Et nous comprendrons mieux leur rôle dans le plan de Dieu. Et quand on lira Matthieu 1, verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, ah, mais maintenant je comprends mieux les liens entre tout cela. L'Ancien Testament se prolonge dans le Nouveau Testament et permet de mieux le comprendre. Deuxième mot-clé, deuxième raison de lire l'Ancien Testament, c'est ce mot-clé référence. Parce que le Nouveau Testament, auquel on est souvent plus habitué, que nous sommes souvent plus habitués à lire, il fait référence à l'Ancien Testament à de nombreuses reprises par des citations ou des allusions. Il suffit de lire dans les notes de bas de page du Nouveau Testament le nombre de fois que tel verset est repris dans l'Ancien Testament et cité vient de l'Ancien Testament, ou quand il y a simplement une allusion. Ce n'est pas une citation directe, mais il y a une allusion claire à tel passage, tel récit de l'Ancien Testament. Prenons quelques exemples. Je voulais aussi mentionner une chose. Dans le livre « Creuser l'écriture » que nous avons étudié tout au long de l'année passée dans les réunions de quartier, il y avait un outil qui, justement, s'appelle l'outil des citations et des allusions, ici, en haut à droite, là. Donc, un outil, on va voir qu'il y a... On va pratiquement tous les citer ce matin, là, ces outils-là. Et donc, prenons quelques exemples de liens entre le Nouveau Testament et sa référence à l'Ancien. Tout d'abord, quand Jésus est venu, le Nouveau Testament n'existait pas encore, et c'est à partir de l'Ancien Testament que Jésus a prêché, qu'il est allé dans les synagogues et qu'il a enseigné à ses contemporains. Il a lu, il a étudié l'Ancien Testament dans les synagogues. Il a obéi aux règles de loi que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Il s'est référé bien des fois à l'Ancien Testament, par exemple quand il est tenté par le diable pendant les 40 jours dans le désert. Qu'est-ce qu'il fait ? Il cite à trois reprises l'Ancien Testament, le livre du Deutéronome. Pour bien comprendre ce que Jésus a vécu dans les évangiles, il est nécessaire de connaître ce qu'il y a à l'arrière-plan de tout cela, c'est-à-dire le contexte qui était celui de l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Un autre exemple, dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul commence par montrer que tous les êtres humains, tous, quels qu'ils soient, sont coupables devant Dieu. Mais tous aussi peuvent accéder au salut. Comment ? En plaçant leur foi dans le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. En plaçant leur foi en Jésus. Et pour montrer que ce message du salut par la foi n'est pas quelque chose de nouveau, que fait-il au chapitre 4 de la lettre aux Romains ? Eh bien, il prend l'exemple d'Abraham, et puis encore celui de David, encore ces deux-là, pour montrer qu'eux aussi ont eu la foi en Dieu. Et donc, ce qu'il est en train d'annoncer, le salut par la foi, n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'était déjà là, enraciné dans l'Ancien Testament. Parce que Paul se réfère à de nombreuses reprises à l'Ancien Testament. Un troisième et dernier exemple, en 2 Timothée 3, verset 16. Nous lisons ceci, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. » Quand Paul dit « l'Écriture » ici, « toute l'Écriture est inspirée de Dieu », à quoi fait-il référence ? Au Nouveau Testament ? Ce n'est pas possible, le Nouveau Testament n'existait pas encore à ce moment-là. Paul fait référence à l'Ancien Testament et il voit l'Ancien Testament comme conçu pour produire, pour amener la foi en Christ, c'est-à-dire dans le Messie que Dieu avait promis dans l'Ancien Testament. Et donc, ne pas lire l'Ancien Testament, ce serait passer à côté de beaucoup d'éléments qui sont pourtant utiles pour mieux comprendre, pour mieux éclairer le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament se réfère très souvent à l'Ancien. Un troisième et dernier mot-clé, troisième raison de lire l'Ancien Testament, c'est le mot-clé « accomplissement ». Parce que Jésus accomplit l'Ancien Testament en sa personne et son œuvre. Les évangiles, et en particulier celui de Matthieu, montrent que Jésus vient accomplir l'Ancien Testament. Il y a un lien étroit entre les paroles et les actes de Dieu dans l'Ancien Testament et ce qui se produit dans la vie de Jésus, à commencer même par sa naissance. Rien que dans les deux premiers chapitres de l'Évangile de Matthieu, il y a à quatre reprises la phrase « Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète » et ainsi de suite, tel ou tel prophète de l'Ancien Testament, pour montrer que Jésus est venu pour accomplir tout ce qui était dit à son sujet dans l'Ancien Testament. Un peu plus loin, toujours dans cet évangile de Matthieu, dans le sermon sur la montagne, Jésus dira « Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Alors, puisque Jésus n'a pas mis l'Ancien Testament de côté, pourquoi le ferions-nous, nous ? Ça n'aurait aucun sens, puisque l'Ancien Testament pointe vers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, comme on le voit dans ces deux versets que je cite maintenant, dans un autre évangile. C'est Jésus qui dit « Vous étudiez avec soin les Écritures, sous-entendu l'Ancien Testament, parce que vous êtes convaincu d'en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. » Les Écritures témoignent de Jésus. Et puis, quelques versets plus loin, à ceux qui refusent de croire en lui, Jésus dit « N'allez surtout pas croire que je serai, moi, votre accusateur auprès de mon Père. C'est Moïse qui vous accusera. Oui, ce Moïse même en qui vous avez mis votre espérance. En effet, si vous l'aviez réellement cru, vous m'auriez aussi cru, car il a parlé de moi dans ses livres. » Et les livres de Moïse, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Moïse a parlé de Jésus dans ses livres. Dans un autre évangile, en l'évangile de Luc, c'est tellement évident que l'Ancien Testament parle de Jésus que Jésus reproche aux disciples d'Emmaüs de ne pas avoir compris cela. Il leur dit ceci, « Ah, homme sans intelligence, vous êtes bien long à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire ? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures, en sous-entendant ici, là encore, l'Ancien Testament. » Jésus dit à ses deux disciples d'Emmaüs, « Laissez-moi vous montrer comment l'Ancien Testament parle de moi. Moi, le Messie, dit Jésus. » Et ce n'est pas par hasard que la Bible et Jésus, le Fils de Dieu, sont désignés par le même terme, la parole. Les deux sont paroles de Dieu reliant l'un et l'autre de façon inextricable. Ça relie Jésus aux Écritures parce qu'il est la parole de Dieu faite chair, et les Écritures sont reliées à Jésus parce que toutes les Écritures, Ancien et Nouveau Testament, parlent de Jésus. Jésus est le fil rouge de chaque histoire de la Bible. C'est avec cette perspective que nous devrions l'aborder quand nous lisons la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau. C'est un peu comme si chaque page de la Bible murmurait le nom de Jésus. Parce que précisément, Jésus accomplit l'Ancien Testament. L'Ancien Testament mentionne des promesses de Dieu, et le Nouveau Testament montre comment ces promesses s'accomplissent. Et si on ne comprend pas ces promesses et leur contexte, on risque de ne pas mesurer la portée de leur accomplissement. Peut-être parmi toutes les promesses, la plus belle et la plus importante, c'est celle que nous trouvons dans le livre de la Genèse, encore le livre de la Genèse, avec l'annonce du salut que Dieu va opérer dès le chapitre 3 au verset 15. Et l'annonce du Sauveur qui viendra pour sauver son peuple de ses péchés. L'Ancien Testament, c'est le commencement de la réalisation de cette promesse de salut que Dieu va accomplir, et il va l'accomplir par son Fils, Jésus-Christ. Et plus on comprend l'Ancien Testament, plus on va mesurer la portée de ce que Dieu a opéré par son Fils, Jésus-Christ. Prolongement, référence, accomplissement, trois mots-clés pour nous convaincre, j'espère, que la lecture de la Bible est utile et pertinente. La lecture de l'Ancien Testament en particulier. Ceci étant dit, il ne s'agit pas de lire l'Ancien Testament n'importe comment. Comment faire pour lire un texte de l'Ancien Testament ? En trois étapes. La première étape, c'est celle qu'on appelle l'exégèse, et qui consiste à déterminer le sens du passage, le sens du texte, pour les premiers destinataires, c'est-à-dire eux à leur époque. On a un texte de l'Ancien Testament, et on cherche à comprendre ce que ce texte voulait dire pour eux, pour les Israélites, ou pour les habitants de Ninive, dans telle ou telle prophétie, etc. Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux, les premiers destinataires ? Notons que ce que je dis là, ça vaut aussi d'ailleurs pour un texte du Nouveau Testament. Chercher à comprendre ce que ça voulait dire pour les chrétiens d'Éphèse ou de Colosse, et ainsi de suite. C'est se poser des questions comme, quel est le message de l'auteur ? Quelle est l'intention ? Quelle est son intention ? Pourquoi est-ce qu'il a écrit cela ? Dans quel but ? Dans quel genre littéraire l'a-t-il écrit ? Un récit ? Un discours ? Un texte poétique ? C'est quoi le contexte de ce texte ? Le contexte historique, par exemple, les événements qui entourent le passage, la culture de l'époque, mais aussi le contexte littéraire, c'est-à-dire s'intéresser à ce qui entoure le passage qu'on veut étudier. Qu'est-ce qu'il y a avant ? Qu'est-ce qu'il y a après ? Pourquoi l'auteur a placé le texte qu'on lit à cet endroit-là, avec ça autour ? Et cela renvoie là aussi à un certain nombre d'outils qui sont présentés dans le livre « Creuser l'écriture ». J'ai mis quelques petites coches vertes ici, par exemple l'objectif de l'auteur, le contexte, le genre littéraire, le ton et les émotions avec lesquelles l'auteur s'exprime, la structure du texte. Et pour comprendre la structure, on a les mots de liaison, les parallèles, le vocabulaire employé, les mots qui sont répétés, parce que tout ça montre là où l'auteur veut mettre l'exergue sur tel ou tel point. Et donc la structure est toujours intéressante. Et pour ça, on s'aide aussi des traductions, des différentes traductions que nous avons en notre possession. Pour mémoire, j'affiche la structure du livre de l'Ecclésiaste que nous avons étudié ces 12 derniers mois. Là aussi, elle met en évidence, en exergue, ce qui est important pour l'auteur de ce livre. Le rappel de la thèse, au début du livre, à la fin. Ce poème au début qui fait écho au poème de la fin. Et puis, au cœur, on a tout le corps du discours avec la description de la réalité. Et puis, voilà, maintenant, vous savez comment est la réalité. Je vais vous donner des conseils pour apprendre à vivre la vie telle qu'elle est, pour apprendre à vivre cette réalité-là. Toute cette première étape permet finalement de répondre à la question « Qu'est-ce que ce texte de l'Ancien Testament, qu'est-ce que ce texte de la Bible signifiait pour les premiers destinataires, eux, à leur époque. La seconde étape consiste à déterminer comment ce texte s'accomplit en Jésus-Christ. C'est ce qu'on pourrait appeler la réflexion théologique. C'est ce que souvent on aime le moins faire, malheureusement. Mais entre le texte de l'Ancien Testament et nous qui le lisons aujourd'hui, il y a eu un événement historique de grande ampleur. C'est la venue de Jésus, il y a 2000 ans, et tout ce que ça veut dire. Dans le livre « Creuser l'Écriture », cela fait référence à l'outil de la chronologie biblique, où on avait rappelé l'histoire du salut depuis la création, et puis peu après l'entrée du péché dans le monde avec la chute, le salut que Jésus a accompli, et puis une quatrième étape qui est, elle, encore à venir, c'est le retour de Jésus et surtout ce que ça va inaugurer l'état final, la nouvelle création. Dieu ne s'est pas révélé en une fois. Il l'a fait durant plusieurs siècles, 12 à 15 siècles. Et la réflexion théologique dont il est question ici avec cette deuxième étape nous aide à faire des liens entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour discerner que ce qui était en préparation dans l'Ancien Testament, ça trouve son aboutissement dans le Nouveau Testament, dans la personne et l'œuvre de Jésus. C'est se demander comment le texte anticipe ou se rapporte à la bonne nouvelle de Jésus. Parce que la Bible raconte une grande histoire. Et les différents récits qui sont dedans, ce n'est pas un fourre-tout, mais c'est organisé, c'est structuré, c'est cohérent, c'est connecté l'un à l'autre. Ils sont connectés les uns aux autres. Il y a une logique à saisir, le fil rouge de tout ce qu'il y a dans la Bible. Et le fil rouge, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la personne et l'œuvre de Jésus. Le prédicateur baptiste britannique Charles Spurgeon a dit ceci. « Ne sais-tu pas qu'à partir de chaque ville, de chaque village et de chaque hameau en Angleterre, où qu'il soit, il y a une route qui mène à Londres ? Ainsi, à partir de tous les textes de l'Écriture, il y a une route qui mène à Christ. À présent, quand tu lis un texte, demande-toi, quel est le chemin qui mène à Christ ? » C'est cette réflexion théologique qui permet donc de déterminer comment ce texte s'accomplit en Jésus-Christ. C'est la deuxième étape. Et puis enfin, la troisième étape, celle, la plupart du temps, celle à côté de laquelle on ne passe pas en général, c'est l'étape qui consiste à déterminer les applications à nous aujourd'hui, à notre époque. On va chercher des applications replacées dans notre contexte. Comment ce texte, avec le message qu'on a mis en évidence pour eux, les premiers destinataires, comment est-ce qu'il va pouvoir s'appliquer à nous aujourd'hui, en 2024, là où nous vivons? C'est se poser des questions comme « Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu dans ce passage ?» Sur la personne du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ce texte biblique révèle des attributs de Dieu, de son caractère, de sa volonté, de ses promesses? Comment ce texte m'aide-t-il à mieux connaître Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend de son peuple? Et puisque nous sommes sous la Nouvelle Alliance, et le peuple de Dieu est l'Église, qu'est-ce que Dieu attend de l'Église? Qu'est-ce que Dieu attend de moi au sein de l'Église? Qu'est-ce que Dieu m'invite à changer dans ma vie, dans mon comportement? Est-ce qu'il y a quelque chose dont j'ai besoin de me repentir? Dans quel domaine ai-je besoin de réaligner ma pensée, ma conduite sur la volonté et les commandements de Dieu? Quelles sont les vérités que je suis invité à croire? Et comment ces vérités vont renverser les idoles qu'il y a dans mon cœur? Comment puis-je résumer en une phrase la portée, le message de ce texte pour moi, pour nous l'Église, aujourd'hui en 2024? Et dans le livre « Creuser l'Écriture » que nous avons étudié l'année passée, il y a les trois derniers outils. Qui suis-je? Et maintenant? Et rassembler tous les éléments qui sont là. Et comme on le voit, c'est pas anodin, ils sont à la fin parce que, on les a vus en dernier dans le livre, parce qu'avant, il y a tout ce travail préliminaire, avec tous les autres outils à gauche et à droite ici, qui sont là pour nous aider à comprendre le sens du texte et de voir le lien à Christ avant d'en arriver à nous aujourd'hui et nous et notre contexte. Donc nous venons de voir trois étapes. Voyons maintenant trois pièges à éviter quand on lit et cherche à comprendre, à appliquer un texte de l'Ancien Testament. Et le premier piège, c'est celui qui consiste à sauter toutes les étapes et à appliquer le texte directement à nous aujourd'hui. C'est comme si, voilà, on cherchait à faire un trait ici entre le texte de l'Ancien Testament et nous à notre époque. En faisant l'économie de l'exégèse et de la réflexion théologique. Parfois, c'est possible. Parfois. Mais souvent, non. Il y a une distance historique, une distance culturelle entre l'Ancien Testament et nous, et surtout il y a aussi une distance sur le plan de l'Alliance. Nous ne sommes plus dans l'Ancienne Alliance, mais nous vivons aujourd'hui en tant que croyants en Jésus-Christ sous la Nouvelle Alliance. Et la venue de Jésus, comme on l'a vu, a considérablement changé les choses. Et il faut tenir compte de tous ces paramètres. J'aimerais prendre un exemple. Dans le cadre des prophéties de l'Ancien Testament, les bénédictions qui sont mentionnées et les malédictions sont à comprendre avec une perspective davantage communautaire que individuelle. Si nous lisons en Jérémie, chapitre 29, verset 11, ce verset qu'on cite souvent, qu'on aime bien, « Car moi, dit l'Éternel, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Les projets dont parle le texte ici concernent le peuple d'Israël. Et dans son contexte, à ce moment-là, le peuple est en exil. Et Dieu s'adresse à la communauté exilée et il lui annonce qu'elle ne restera pas éternellement en exil, mais que Dieu va l'en faire revenir. Parce que Dieu a des projets de paix pour son peuple, pour Israël. Une interprétation erronée ici consisterait à dire « Dieu a des projets de paix et non de malheur pour moi, aujourd'hui, là, à l'aube de cette nouvelle année 2024-2025 qui s'ouvre devant moi. » J'en sais rien en fait hein, de quoi l'année sera faite, mais ce n'est pas du tout ce que ce texte veut dire. À cela s'ajoute le fait que, en plus d'être communautaire, d'être collective et communautaire, les prophéties, elles étaient conditionnelles. Si le peuple obéissait, alors il allait prospérer dans le pays que Dieu allait lui donner. Les prophéties, donc, étaient données dans le cadre de l'alliance entre Dieu et son peuple. Une interprétation erronée consisterait à dire « si j'obéis à Dieu, alors il me bénira », tout comme pour Israël. Et en fait, c'est l'erreur que l'on retrouve dans la théologie de la prospérité, qui a grand vent de nos jours. Donc un premier piège ici, celui qui consiste à passer directement du texte à nous. Deuxième piège, c'est ce piège qui consiste à passer directement du texte à Jésus-Christ sans se préoccuper de ce que ça veut dire pour les premiers destinataires. Faire cela, c'est comme réduire l'Ancien Testament au silence. On serait alors à deux doigts de considérer la Bible comme de la mythologie. Ce serait comme adopter une lecture libérale de l'Ancien Testament, de la Bible. « Oh, mais tout ça, ça n'a pas vraiment existé, ces récits, ces miracles de l'Ancien Testament, c'est pas vraiment vrai. » Une lecture libérale. On remet tout en question. Mais en tant que chrétiens évangéliques que nous sommes, nous ne remettons pas en cause l'historicité de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament d'ailleurs non plus. Et il convient donc de ne pas faire l'économie de comprendre ce que le texte voulait dire pour eux, à leur époque, les premiers destinataires. Parce qu'ils ont bel et bien existé, c'est une réalité. Et on ne peut pas faire cette économie. Et c'est sur cette base-là, c'est parce qu'on aura compris ce que ça voulait dire pour eux, qu'on pourra ensuite comprendre ce que ça veut dire pour nous, aujourd'hui, quelques 2000 à 3000 ans plus tard. Troisième piège, vous vous en doutez, c'est celui qui consiste à passer directement de eux, les destinataires, à nous, sans passer par l'accomplissement en Jésus-Christ, sans faire la réflexion théologique dont je parlais tout à l'heure. Tomber dans ce piège, ce serait comme aborder chaque texte de l'Ancien Testament en se demandant à qui puis-je m'identifier dans le passage ? Qui pourrais-je imiter ? Et je deviens alors en quelque sorte le héros du récit. En faisant cela, nous passons à côté de ce que Dieu veut nous enseigner. Et en faisant cela, pire encore, nous détrônons Dieu de la place centrale qu'il mérite occuper. Parce que c'est lui qui est l'acteur principal dans tout l'Ancien Testament. Et là, on est en train de prendre sa place et de se poser la question, qu'est-ce que le texte me dit à moi ? Prenons un exemple. Nous connaissons l'histoire de David et Goliath dans 1 Samuel chapitre 17. On pourrait lire ce texte en cherchant à s'identifier à David. On va plutôt s'identifier à David qu'à Goliath. Hein. Et puis on va dire, mais tu vois David, il a abattu un géant dans une épreuve incroyable. C'est quoi les Goliaths de ta vie ? C'est quoi tes géants à toi ? Tu peux les vaincre, tout comme David a vaincu son géant. On pourrait même pousser encore un peu plus loin et dire, t'as vu David ? Il a pris 5 pierres là dans le petit torrent. Tu as la pierre de la lecture de la Bible, la pierre de la prière, la pierre de je ne sais même pas quoi d'autre encore. Mais ce sont des interprétations qu'on entend. On fait erreur et on spiritualise le texte ici. Ce n'est pas du tout ce que le texte veut dire, parce que comme on l'a vu déjà tout à l'heure, chaque récit, chaque personnage de l'Ancien Testament s'intègre d'une manière ou d'une autre à cette grande histoire qui est centrée sur la personne et l'œuvre de Jésus. Ces personnages, donc, devraient être vus comme des poteaux indicateurs qui vont pointer vers Jésus-Christ. Dieu a pris soin, durant tous les siècles, de préparer l'humanité à un événement important qui a eu lieu il y a 2000 ans, c'est la venue du Messie. Il l'avait annoncé dès les premières pages de la Bible après l'entrée du péché dans le monde. Les Israélites, quand on lit l'Ancien Testament, ayons toujours en tête qu'ils attendaient le Messie. Avec la connaissance qu'ils en avaient, avec la progression dans la révélation, certes, mais ils l'attendaient. C'était la promesse. Et Dieu a placé dans cette grande histoire des personnages, des lieux, des institutions, des objets, des fêtes, dont le rôle était de pointer vers Jésus-Christ. Et de cette manière, lorsque Jésus est venu, le peuple de Dieu avait normalement les repères nécessaires pour comprendre sa mission, même si beaucoup l'ont rejeté. Et c'est pour ça que c'est surprenant que les disciples d'Emmaüs n'aient pas compris. ou qu'un certain Nicodème qui s'approche de Jésus de nuit. Mais comment, toi qui es un responsable dans le peuple, tu ne comprends pas ça ? Lui dit Jésus. Parce que tout était annoncé. Pour reprendre l'exemple du récit de David et Goliath, chercher l'accomplissement en Jésus-Christ, donc ne pas manquer de faire cette étape ici de l'accomplissement en Jésus-Christ, ce serait de dire, David est le roi qui annonce, le grand roi, qui va venir, le Messie. Et la victoire du roi David sur Goliath renvoie à la victoire du grand roi, le Messie, Jésus-Christ, sur le mal et le malin à la croix. Ce que David a vécu à une certaine échelle à lui, Jésus l'accomplit d'une manière ultime et suprême. Ce que David a fait là, en 1 Samuel 17, annonce, préfigure, un mot un peu compliqué, mais c'est ça, ça annonce à l'avance ce que Jésus fera plus tard et qu'il a fait depuis maintenant, au moment où nous parlons aujourd'hui. Et du texte de 1 Samuel 17, on peut dégager des applications. Par exemple, la confiance que le peuple de Dieu doit avoir en son Dieu, quand on lit le verset 47 du chapitre 17. Ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel délivre, parce que l'Éternel a d'autres manières de délivrer. Et donc, placez votre confiance en ce Dieu-là. Une autre application de ce texte serait de montrer en quoi la bataille qu'il y a ici entre David et Goliath annonce, vise l'annonce du salut. Quand nous lisons verset 46, « Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Et donc il y a une invitation à proclamer ce Dieu-là. C'est ce que David faisait auprès de ses frères et plus largement de toute l'armée qui était là sur le champ de bataille et qui était tremblant devant ce géant. Et nous pourrions prendre bien des exemples de récits, de personnages de l'Ancien Testament et montrer comment ils annoncent à l'avance, ils préfigurent ce que Jésus fera. Des thèmes aussi, des thèmes comme le tabernacle, les sacrifices et les cérémonies, qui sont des images de Jésus-Christ. Des prophètes, des prêtres et des rois de l'Ancien Testament pointent vers Jésus-Christ. Ces analogies se trouvent partout dans l'Ancien Testament, mais elles sont toujours incomplètes, limitées, inefficaces, parce qu'elles pointent vers quelque chose de futur, vers Jésus, le Messie, qui lui vient les accomplir parfaitement, totalement, complètement. Gardons-nous d'une lecture individualiste de la Bible. N'ouvrons pas notre Bible avec la pensée première « Qu'est-ce que Dieu a à me dire à moi aujourd'hui ?» Bien sûr, c'est une question à se poser, mais c'est de loin pas la première. C'est un des meilleurs moyens de faire dire à la Bible ce qu'elle ne veut pas dire, surtout quand on part d'un texte de l'Ancien Testament. N'oublions pas que la Bible révèle Dieu et son plan de salut en Jésus-Christ. Et l'histoire de la Bible ne concerne pas des individus uniquement, mais elle concerne un peuple que Dieu est en train de sauver. Quelle grâce d'être inclus dans ce plan. Quelle grâce de faire partie de ce peuple. Quel privilège de contempler, de voir, de pouvoir lire la Bible, Ancien et Nouveau Testament, et de contempler comment ce plan de salut est en train de se dérouler par la bonne main de Dieu, par la souveraine main de Dieu, parce que c'est lui le héros de l'histoire. C'est lui le personnage principal de la parole de Dieu. C'est sa parole. Et tout cela, ça vient nourrir notre foi. Tout cela, ça vient aussi nourrir notre adoration et notre louange. Alors, en ce culte de rentrée, il nous a semblé important de faire le lien entre ce que nous avons vu l'an dernier avec des prédications tirées pour bon nombre de l'Ancien Testament. Il y a eu une série sur la personne de Jacob, une série sur le livre de l'Ecclésiaste. Il y a eu également des rencontres de quartier où nous avons abordé un certain nombre d'outils dans le livre « Creuser l'Écriture » qui nous aident à creuser le sens d'un texte biblique, le comprendre ce qu'un texte biblique veut dire, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Il nous a semblé important donc de faire le lien avec l'année passée et ce que nous allons faire dans cette année à venir, 2024-2025, qui s'ouvre devant nous. Alors, qu'allons-nous faire cette année ? Là aussi, trois choses. Tout d'abord, dans les rencontres de quartier, nous aborderons chaque mois un des petits prophètes. Les petits prophètes, vous savez, ce sont ces livres bibliques qui vont de Osée jusqu'à Malachie. Ils sont au nombre de 12. On est donc dans l'Ancien Testament. On sera donc dans les pages propres de notre Bible. Mais on va les salir un petit peu. Et d'ici la reprise des rencontres de quartier, la semaine du 7 octobre, vous pouvez déjà lire le prophète Jonas, parce que c'est sur lui que portera la première rencontre, enfin, la rencontre du mois d'octobre, le prophète Jonas. Donc lisez-le pour l'avoir bien en tête le jour de la rencontre, pour en tirer un meilleur profit. 4 chapitres, c'est pas long. Vous pouvez même le lire dans plusieurs traductions, l'outil des traductions, voilà. Ça, c'est une première chose. Qu'allons-nous faire d'autre encore cette année ? Et vous l'avez certainement lu dans la feuille du mois qui est sortie la semaine passée. Je veux parler ici des formations du samedi matin, où il y a deux modules qui sont proposés. Alors, il y en a un, l'intitulé ne peut pas être plus clair, hein, « À la découverte de l'Ancien Testament » que Pierre va apporter. « À la découverte de l'Ancien Testament ». Donc là, on sera vraiment, dans l'Ancien Testament, dans différents récits et autres. Et aussi un second module sur les fondements de la foi, c'est-à-dire les fondements de notre doctrine chrétienne évangélique. Et nous verrons que, bien sûr, le Nouveau Testament, mais aussi l'Ancien Testament, soutiennent grand nombre de nos doctrines fondamentales en tant que chrétiens évangéliques. Ça, c'est une deuxième chose. Et une troisième chose que je mentionne, une série de prédications sur le livre de l'Apocalypse, avec également quelques excursus qui seront plutôt présentés, eux, dans le format étude biblique en semaine, donc. Et là, vous allez me dire, oui, mais l'Apocalypse, c'est dans le Nouveau Testament. Et vous avez raison. C'est vrai. C'est le dernier livre de la Bible, donc le dernier livre du Nouveau Testament. Mais vous verrez très vite que quand on cherche à comprendre le livre de l'Apocalypse, l'Ancien Testament n'est jamais très loin. Le programme est annoncé. Nous voici donc engagés dans cette nouvelle année. Vous savez ce qui est devant nous. Et je vous invite à vous lever. Nous allons chanter un chant. Ce chant « Ta parole », on l'a chanté une fois, peut-être deux, mais en tout cas une fois, en mai dernier. Il est un peu moins connu, ce chant « Ta parole ». Qui nous invite à ouvrir la parole de Dieu, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, à nous nourrir de cette parole-là. Et pendant le chant, les corbeilles pour l'offrande vont circuler. Donc j'invite les personnes qui vont la faire circuler parmi nous à s'approcher. Voilà, ta parole. Il y a un lien YouTube qui a été communiqué, donc on va pouvoir l'écouter. Et puis si vous le connaissez, de le chanter.